Vous écoutez, on lit pour vous.
Haïti Histoire, la semaine est décavée. À propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 4 de 7. Un texte de Leslie Péan, paru le 10 janvier 2025 dans Alter Press. Au cœur de la période de confinement, où le port du masque est encore un sujet d'actualité, cette pensée articulée autour du slogan « Bas les masques » arrive à point nommé. La classe politique n'a pas attendu une épidémie pour imposer le masque invisible qu'elle porte. Un masque inquiétant qui s'est affiché lors de cette réunion tenue le 31 décembre 1803 par les pères fondateurs pour prendre connaissance et discuter des travaux de Jean-Jacques Charéron sur la Déclaration de l'indépendance. La métamorphose de l'être humain en monstre a eu lieu, en clair, dès le départ, quand Dessalines a rejeté d'un revers de main le travail réalisé en un mois par Jean-Jacques Charéron. Travail de pensée basé sur les plus grandes avancées de l'humanité en matière de gestion de la chose publique et des sociétés. La Déclaration des droits et des libertés du sujet de 1689 en Angleterre, la Constitution américaine de 1776 et la Déclaration des droits de l'homme de la France de 1789. Nos faucons rejettent à la fois l'idée d'écarter l'Empire et la royauté et celle d'instituer un gouvernement dirigé par un président élu pour 4 ans, ainsi qu'un régime de séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Précisons tout de suite que les conceptions opposées des pères fondateurs sont défendues par Charéron et Boisrond-Tonnerre, deux mulâtres ayant une vision et une lecture complètement différentes des réalités et des exigences du moment. Les deux principaux partisans du pouvoir absolu, en l'occurrence Dessalines et Boisrond-Tonnerre, sont donc un noir et un mulâtre. Depuis cette réunion prémonitoire du 31 décembre 1803, consacrée à la préparation de l'acte de l'indépendance, le port du masque est de rigueur et sert à cacher le visage des monstres qui refusent d'adopter des lois et de les respecter. Le recul des libertés et l'ingérence de l'État dans la gestion des consciences s'expriment immédiatement dans toute sa cruauté. Affirmant en outre qu'on assiste ce jour-là à la métamorphose des dirigeants mâles en monstres sexistes, car il n'y a pas une seule femme à cette malheureuse réunion où sont jetées les bases de l'ordre cannibale qui dévore les citoyens. Bien qu'elles aient été plus nombreuses dans la population et très présentes sur les champs de bataille, les femmes ont été mises de côté. Les masques s'affichent, sans vergogne, depuis que Boisrond-Tonnerre a mis le sien pour produire en une nuit, avec café et rhum, l'acte de l'indépendance. Le travail d'un mois, remplacé par celui d'une nuit. Les autres hauts gradés qui participaient à cette réunion n'ont fait aucun commentaire et ont accepté le baptistère tel qu'il a été produit. Le personnage du premier dirigeant a ainsi été créé avec un déguisement bien ajusté qui recouvre parfaitement son visage. Le pouvoir établi, il devient Yonmun, une personne, dans le sens que le philosophe anglais Hobbes donne à ce mot dans son Léviathan, 1651. Grâce à l'appropriation du pouvoir, on se déguise et on devient une personne, dans le sens que le latin donne au mot « persona » pour désigner les masques que portaient les acteurs au théâtre. Des comportements devenus rationnels par mimétisme. François Duvalier en est une illustration parfaite. Il faut tout le doigté d'un chirurgien pour décortiquer le déficit éthique affectant la société haïtienne. Aucune évolution n'est possible si le pays ne sort pas de l'immobilisme créé par l'absence d'éthique. Son image en pâtit à cause des dérives découlant de l'inexistence d'une boussole. Le code de conduite dans les affaires publiques consiste à voler sans se faire attraper, ce qui renvoie au mot de Dessalines « Plumez la poule, men pas quitter, irez-les. » Plumez la poule, mais prenez garde qu'elle ne crie. Et au « Les égrenaines » de Pétillon, qui vient conforter les positions de ceux qui disent « Voler l'État, ce n'est pas voler. » En s'exprimant de manière très directe, l'auteur encaisse le coup de l'aveuglement d'une culture qui, dans un entre-soi déconcertant, tire la société vers le bas. Cette culture coupe toutes les têtes qui dépassent et encourage inlassablement la médiocrité. La contestation est ouverte, parfois violente, résumant la colère des consciences devant les événements du moment. Les avant-gardes de la bêtise sont responsables de l'empoisonnement des esprits par la corruption des idées. En plaçant les éléments contradictoires au-devant des consciences, il est difficile d'esquiver les questions que nous refusons de poser au sujet de l'échec national. Des questions incontournables qui ont partie liée avec le règne de l'ignorance et de l'obscurantisme qui frappe nos visages cachés par un affreux crochet sur le nez. Des questions non résolues concernant la suprématie du droit face au despotisme des chefs et particulièrement la primauté des droits de propriété sans lesquels le développement économique demeure illusoire. Vous écoutez Haïti, histoire, la semaine Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 4 de 7 ». Un texte de Leslie Péan, paru le 10 janvier 2025 dans Alter Press. Politique extérieure et économie politique. Dès le mois d'avril 1804, le gouvernement de Dessalines met Miranda au pied du mur à Jacmel, en lui disant que, sans une force armée prête à ratisser plus large en livrant bataille, son mouvement de libération est voué à l'échec. Ce que révèle la phrase clé « Coupez tête, boulez quai »« Tranchez les coups, incendiez les maisons », qui signifie que, sans les armes, aucun changement fondamental n'est possible. Dessalines n'était pas en manque d'inspiration quand il a accepté de concrétiser la solidarité avec le gouvernement américain en renouvelant la mission de l'émissaire blanc Joseph Bunnell, ancien ambassadeur de Toussaint Louverture à Washington. Ce dernier avait obtenu du gouvernement de John Adams qu'il soumette la clause Toussaint au Congrès américain pour lever l'embargo et approvisionner Toussaint en vivres, armes et munitions. Dessalines utilisera aussi les bons offices des ressortissants américains en donnant par exemple carte blanche au commerçant américain Archibald Kane, marié à une Haïtienne, qui s'installa à Saint-Marc en 1805 et y vécut jusqu'au terme de ses jours en 1817. L'occultation de ces faits dans les manuels d'histoire ravage les esprits et maintient le corps social dans les tourmentes du mulâtrisme et du noirisme qui déferlent à la moindre occasion. En effet, ces deux instruments de la débâcle refusent d'être ensevelis et maintiennent au beau fixe le ton de toutes les corruptions. Pour comprendre comment les fondateurs sont devenus des fossoyeurs, il faut crier « bas les masques », même quand ceux-ci sont réduits dans le texte d'Eddie Cavé à de faux nez comme dans la tradition chinoise ou à des perruques comme dans la tradition vénitienne. Nos historiens remontent toujours à la période de 1804 pour valoriser le peuple haïtien et montrer la contribution fondamentale apportée par nos ancêtres à l'évolution de l'humanité par leur victoire contre l'esclavage. Cet apport est indéniable en dépit des efforts déployés par les puissances coloniales pour recouvrir cet exploit d'un manteau de silence. Pour faire oublier cette prouesse qui a brisé le carcan de 15 siècles d'exploitation et de sous-valorisation de la peau noire et de survalorisation de la peau claire. Des choses qu'on croyait alors impossibles ont été réalisés par les Haïtiens. Toutefois, l'ancrage universel de la lutte pour la libération de l'esclavage et l'indépendance s'affaiblit sous la pression des défis de l'ère moderne et il tend même à se perdre dans un nationalisme étroit, un chauvinisme qui rejette le caractère multiracial de cette révolution. La lutte contre l'obscurantisme se révèle aussi importante que celle menée contre l'esclavage. Le premier à l'avoir ouvertement reconnu est Toussaint Louverture, qui fit alliance avec certains grands blancs pour bénéficier de leur savoir dans la lutte pour la promotion de ses frères et sœurs noirs. On est loin de l'attitude vengeresse de son successeur Dessalines qui, après avoir ordonné le massacre des Français, a déclaré « Que m'importe le jugement de la postérité, pourvu que je sauve mon pays ?» Sans la moindre veille stratégique, nos premiers dirigeants ont trempé dans la vengeance aveugle. Aucune réconciliation n'a eu lieu. Le vainqueur n'a pas donné la main au vaincu, et le pays a sombré dans la division, le surplace et la marche arrière. Pour ne pas, sans doute, prêter le flanc à des amalgames polémiques ni détourner l'attention vers les questions, pourtant fondamentales, de l'insertion dans la globalité et de la gestion financière, l'auteur a choisi de rester dans le domaine politique. Il néglige ainsi un problème qui continuera de bloquer la modernisation d'Haïti tant qu'il ne sera pas résolu. Sans la démagogie macroéconomique des dettes, comme celle de la dette de l'indépendance, signée par le président Boyer en 1825, et comme celle orchestrée par le président Salomon, en livrant la Banque nationale aux banquiers français en 1880. Un mulâtriste et un noiriste agissant sous le masque des faux patriotes. La planche de salut des transferts en provenance de la diaspora. Ce double crime condamne le peuple à vivoter dans l'usure microéconomique des coups de poignard, et des sabotages. Avant d'être autre chose, l'exclusion est d'abord financière et économique. Il ne suffit pas d'avoir des terres si on n'a pas le financement nécessaire pour les mettre en valeur. Les masses populaires n'ont pas accès au financement. En ayant recours aujourd'hui aux sabotés, dont les taux d'intérêt sont de 10 % par semaine, aucune amélioration des conditions de vie n'est possible. Concrètement, cela signifie que, sur un prêt de 1000 gourdes pour faire un commerce quelconque, le débiteur doit payer 100 gourdes d'intérêt par semaine, ce qui revient à un taux d'intérêt de 520 % par an. La misère croissante et l'augmentation de criantes inégalités avec 10 % de la population possédant 50 % du revenu national ont favorisé l'exclusion et forcé les gens à émigrer pour survivre et entretenir leur famille. Depuis un quart de siècle, à l'exception du séisme de 2010 et des deux années subséquentes, les transferts encore appelés « remises migratoires » provenant de la diaspora ont largement dépassé les flux d'aide publique au développement en Haïti. Selon la Banque mondiale, en 2019, les remises migratoires représentaient 37 % de son PIB, soit l'un des taux les plus élevés au monde. Les flux d'envoi de fonds vers Haïti ont augmenté plus rapidement que l'aide publique au développement, APD, de 1999 à 2010, l'année d'un tremblement de terre dévastateur qui a généré un pic important d'aide internationale. En 2019, les transferts de la diaspora de 3,3 milliards de dollars américains ont représenté 34,4 %, soit plus d'un tiers de la richesse nationale, c'est-à-dire du produit intérieur brut, PIB. En 2024, ce pourcentage s'est encore accru en tenant compte de l'augmentation des transferts à 4 111 millions de dollars américains et de la croissance négative du PIB au cours des 6 dernières années. L'adoption d'une discipline financière appropriée aurait contribué à diminuer le recours à la violence, qui a été et demeure effarant comme mode de régulation des rapports sociaux. Cette approche aurait ajouté une couche de réalisme à l'ensemble, tout en faisant ressortir davantage le rôle de la corruption dans l'extermination des pères fondateurs. Ces derniers contrôlaient les navires autorisés à débarquer leurs marchandises dans tous les ports, tant celui de la capitale que ceux des villes secondaires. D'ailleurs, la lutte pour les propriétés terriennes laissées par les colons français montre bien que la base économique demeure fondamentale derrière les luttes de pouvoir. Loin devant la fierté et l'honneur que les élites mettent en avant pour mystifier le peuple. Cette absence de la question financière une fois signalée, il reste que l'ouvrage éclaire de nouvelles lumières le mécanisme du frein au développement constitué par les luttes de pouvoir. Les cultivateurs, entendez les esclaves nouvellement libérés, s'attendaient à vivre autrement. Mais ils se retrouvent comme des zombies, forcés de rejoindre leurs anciennes plantations et se voient infliger des conditions presque identiques à celles du travail sur la plantation coloniale. Cette fois, le patron n'est plus le colon blanc, mais un colon mulâtre ou noir. Le monde des commerçants étrangers constituait le banquier du gouvernement qui le maintenait en vie artificiellement. Les revenus du gouvernement baissent, car ils viennent en grande partie de l'imposition du café dont le prix sur le marché planétaire baisse de moitié entre 1821 et 1830. À suivre. C'était Haïti Histoire, la semaine édicavée, à propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 4 de 7, un texte de Leslie Péan, paru le 10 janvier 2025 dans Alter Press. Haïti Histoire, la semaine édicavée, à propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 5 de 7. Un texte de Leslie Péan, paru le 13 janvier 2025 dans Alter Press. Aux abois. L'État haïtien frappe à toutes les portes, en taxant d'abord le capital, la terre, à la recherche de ressources économiques pour son budget. Puis, il s'endette auprès des marchands étrangers. Le commerçant français Sureau mène la danse avec 3 magasins ouverts respectivement à Jacmel, au Caire et à la capitale. D'autres négociants étrangers jouent la même partition. C'est le cas avec l'Américain Archibald Kane qui signe le 4 février 1805 un contrat de 5 ans pour des échanges avec l'État haïtien représenté par le ministre des Finances André Vernet. Archibald Kane aura ainsi le monopole d'achat de toute la production de sucre, de café, de coton et de cacao pendant cette période. À son tour, il fournira à la République toutes les marchandises et tous les autres articles nécessaires pour les troupes tels que vêtements, équipements et autres fournitures, etc. Pour tracer les chemins de la liberté et de la prospérité dans la nouvelle conjoncture, il fallait une capacité de réflexion et de prospective dépassant les simples évocations de l'épiderme. On se souviendra que la reconnaissance de l'indépendance a été négociée d'abord par Pétion, dès 1814, et finalisée par Boyer, en 1825. Les finances haïtiennes ont été obérées par cette dette de 150 millions de francs, augmentée d'un emprunt de 30 millions contracté pour payer la première échéance. Une double dette, donc. La République d'Haïti a été violée, c'est vrai, mais elle s'est révélée par la suite une victime consentante en allant jusqu'à encourager ses violeurs par de multiples déhanchements. Des élites plus catholiques que le pape. La tragédie haïtienne est abordée avec une parole qui se veut et qui se sent. Les visages immobiles qu'il montre reflètent les masques tristes d'une faune que Graham Greene a immortalisée sous le titre des « comédiens ». Des masques qui cachent les pleurs des personnages croisés sur la rue. Des personnages qui s'évanouissent dès qu'ils tournent le coin en Haïti ou s'installent sur les terres de l'exil. Sans frapper du pied, Eddie Cavé invite à discuter de la tyrannie indépendamment du tyran, quel qu'il soit. Dessalines, accepté tête baissée comme l'émancipateur. Pétion, considéré comme le fondateur de la République, mais qui en est devenu aussi le fossoyeur avec la présidence à vie. Christophe, qui, tout en privant de tout droit ses collaborateurs, est appelé le civilisateur, etc. Invitation à enlever le masque du fondateur et à le poser au sol. Interrogation sur les figurants qui ont signé l'acte de l'indépendance. Qui est Kenaise et quelle est son histoire? Pourquoi aucune femme ne figure-t-elle parmi ses signataires? Pourtant, il y en avait beaucoup qui le méritaient. Depuis la marronne indomptable Zabette, Cécile Fatima au bois Caïman, Victoria Montou, Marie-Jeanne Lamartinière, Sanit Belair, etc. Autre chose qu'on ne saurait s'en expliquer. S'il est exact que Dessalines prononça son discours en créole sur la place des Gonaïves le 1er janvier 1804, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas eu une version créole de l'acte de l'indépendance afin que tous les Haïtiens en soient conscients du contenu. Nos élites ont été plus catholiques que le pape, et l'exclusion commence là. Pourtant, Napoléon Bonaparte avait eu le souci de mettre en créole la proclamation du 8 novembre 1801. Mettant bout à bout les images, à l'instar des pièces dispersées d'un grand puzzle, Eddie Cavé invite les lecteurs à interroger le passé pour le reconstituer et lui trouver son vrai sens. Surtout pour expliquer les raisons de la descente aux enfers transformant Haïti en un espace de vagabondage organisé. Une cour des miracles avec un gigantesque bazar où toutes les règles sont abolies. Cette minutieuse enquête obligeait de traverser des continents afin de donner forme à de nombreux visages qui se dérobaient sans cesse. À croiser les routes de nombreux chercheurs haïtiens et étrangers qui ont travaillé à partir d'archives pour restituer des vérités cachées et dérangeantes. Des vérités essentielles qui ne conduisent pas à se détacher d'Haïti à tout jamais, ni à en tomber follement amoureux, mais plutôt à aborder avec lucidité le nécessaire combat pour un avenir meilleur. En effet, confronté au drame de fin du monde de notre société corsetée par un obscurantisme carabiné qui la plonge dans la quête d'une identité meurtrière. Eddie Cavé résiste au rituel de l'ignorance traditionnelle qui éloigne de la réalité et nous rend étrangers à nous-mêmes. Aliénation culturelle oblige. Il offre des éléments capables de sortir nos esprits et nos corps de la danse macabre dans laquelle ils sont entravés. Danse de souffrance qui tétanise. Défaire le fil de cette fatalité tragique revient à gouverner autrement et à mettre fin au silence qui entoure l'assassinat du libérateur comme celui qui bloque le procès de la dilapidation des fonds pétro-caribes. Silence de mort sur le fascisme noiriste duvaliériste et les hordes de jeunes qui renouvellent quotidiennement sa philosophie d'hécatombe. Vous écoutez Haïti Histoire, la semaine Eddie Cavé, à propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 5 de 7, un texte de Leslie Péan, paru le 13 janvier 2025 dans Alter Press. Les combats de la multitude. Instrument de travail pourvu d'un catalogue détaillé des sources et d'une bibliographie dont les chercheurs sauront certainement tirer profit. Ce livre attaque l'ordre culturel dominant en le prenant à bras-le-corps. Ce faisant, il contribue à la critique du réflexe habituel d'une surestimation de soi dans le cadre d'une pensée racialiste et coloriste qui détruit les cerveaux en attribuant aux forces spirituelles bizango tout le mérite de la victoire remportée sur l'expédition de 1802. Sur quoi se fonde donc cette approche vacillante qui n'accorde aucune importance aux appuis qu'ont reçus les forces insurgées en payant en café les armes achetées des marchands anglais et américains, ni au blocus des ports de Saint-Domingue par les forces navales de l'Angleterre après la rupture de la paix d'Amiens en mai 1803? Si ces sujets ne sont pas explorés directement, divers indices sont fournis pour aider à découvrir les principes invariants, les constantes structurelles expliquant pourquoi la société haïtienne chemine en rond et va de péripétie en péripétie quand elle ne fait pas marche arrière depuis cette révolution de 1804. L'édifice érigé sur les traditions coloniales et esclavagistes n'arrive pas à se démarquer du despotisme, du pouvoir absolu et autoritaire, vieux maintenant de plus de 2 siècles. La surdétermination extérieure frappe Haïti qui n'arrive pas à garder son autonomie ni à s'organiser sous les embargos et les canonnières des puissances extérieures. Ces dernières ne peuvent pas accepter la menace que constitue Haïti pour le racisme et le système séculaire d'une hiérarchie raciale indéfendable. Le livre est également une invitation à combattre l'irrationnel dominant pour sortir Haïti du trou du pouvoir absolu. Il aborde des questions fondamentales comme la corruption, l'impunité, le vide éthique, le psychisme collectif, la culture, les valeurs communes, les comportements, la responsabilité, etc. À mon avis, son apport le plus novateur réside dans l'accent mis sur la recherche de la vérité entreprise pour répondre aux désirs ressentis par chaque Haïtien de sortir du trou actuel. De l'abîme dans lequel l'ont plongé plusieurs siècles d'obscurantisme, d'incompétence et de mauvaise foi des dirigeants. Eddie Cavé s'attaque à cette tâche avec une subtilité remarquable. En jetant des ponts avec des images entre la science et le public général. La densité de sa démarche permet de mettre l'information aussi bien au service du grand public qu'à celui de l'étudiant pressé ou dérouté par la crise des valeurs qui désoriente la société haïtienne. D'autres points abordés avec finesse tourne autour des recherches sur la psychologie sociale, une nouvelle production de soi et la capacité d'aller, grâce à la critique, jusqu'au bout des luttes. Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion arrive à point nommé à un moment où la fatigue affecte les combats de la multitude qui, après avoir affronté les mains nues, la répression du statu quo, s'est converti à la stratégie des barricades. Pour que les idéaux de ce mouvement inspiré d'une indéniable soif de justice sociale ne cèdent pas sous le poids d'événements et de revers imprévus, il importe de tirer des expériences passées, des leçons qui ne sautent pas nécessairement aux yeux. La nécessité de l'autocritique. Ainsi, avant de décortiquer les mutations politiques de 1957 et de 1986, il y aurait lieu, pour ne pas refaire les mêmes erreurs que nos aînés, de remonter à l'expérience de 1946 et du groupe des jeunes de La Ruche. Dans cet ordre d'idées, il importe de rappeler ce que l'agronome Anthony Lespèce, un des grands penseurs haïtiens du siècle dernier, nommait l'éthique de la gauche, qui repose dans une large mesure sur l'autocritique. on ne saurait trop le souligner. Cette éthique est capitale puisque, à l'instar des militants des autres tendances, les socialistes se trompent aussi et commettent également de graves erreurs. L'éthique personnelle est sans doute le principal rempart des organisations populaires et démocratiques contre les risques de dérive et de malversation. La refondation recherchée pour l'Haïti d'aujourd'hui doit absolument éviter les manigances et autres comportements malhonnêtes antérieurs. Loin de la vénération du passé qui tient lieu d'histoire, la nécessité d'un arbitrage impartial milite pour l'établissement d'une véritable éthique non seulement au sommet de l'État, mais aussi au niveau des individus, des entreprises et des sociétés. L'avantage d'une telle proposition est qu'elle agit non pas en aval, ainsi que les autres modes de régulation des comportements, mais en amont. En effet, les lois, le droit, les règles, les mœurs, la déontologie, les normes, les vertus et les valeurs, la morale, sont des modes de régulation des comportements qui produisent leurs effets en aval. Ils sont tous reliés par le mouvement transversal de l'éthique qui, elle, agit en amont. La décadence actuelle oblige à questionner le vers d'Horace, « Laudator temporis acti », défenseur du passé. Dès les premiers jours de l'esclavage, le système politique a compris la nécessité de s'allier à la religion pour renforcer le contrôle des colons et la domination des captifs. Ces derniers étaient baptisés dès leur arrivée et une croix leur était présentée. Mais ils n'ont pas oublié les esprits africains. Dans ce contexte, les allers-retours ont dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Le père Philémon, curé du Limbé, a donné le bras à Boukman, tout comme d'autres curés tels que le père Cachetan, curé de la paroisse du Trou, prêchait aux insurgés la Déclaration des droits de l'homme et l'Évangile de la liberté. Ces deux curés ont été exécutés par les troupes coloniales et la tête de Boukman a été placée à côté de celle du père Philémon sur la place du Cap. Les esclaves combattants ont trouvé des échos complaisants chez les jésuites abolitionnistes et les esclavagistes n'ont pas pu contenir les pulsions de liberté comme ils le souhaitaient. Les prêtres blancs abolitionnistes qui ont participé à la préparation de la grande insurrection du Bois Caïman s'accrochent inlassablement au basque des mécréants. Selon l'Annec Urbon, on dénombre pas moins de 16 prêtres sur 24 dans le Nord à avoir eu une participation active et même décisive dans l'insurrection. Les politiques ont travaillé de concert avec des religieux. L'épée et la croix se sont donné la main. En criant « Alea Yactahes », le sort en est jeté, les esclaves ont dit que leur situation n'était plus supportable. Alimentés par les contradictions entre les puissances coloniales et leurs protagonistes locaux, le passage à l'acte s'est fait et les esclaves ont franchi le Rubicon. La cérémonie du Bois Caïman a eu lieu et il existe de nombreux témoignages dont certains ont été écrits par des Français qui ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de Boukman. Prendre la mesure de la responsabilité du vieux culte. Eddie Cavé s'est démené pour aborder les rapports des pères fondateurs avec la religion populaire. Ils trouveront leur compte ceux qui préfèrent les certitudes des cloches du Umfo et autres amants du mysticisme aux découvertes scientifiques qui modifient en profondeur les savoirs de la République d'Haïti sur elle-même. Tout comme l'expression « catholique » renvoie à un corps précis de pratiques religieuses, le mot « vaudou » renvoie à un amalgame de pratiques animistes desquelles il est difficile de dégager un sens unique. C'est du moins ainsi que la croyance générale présente les clans religieux en lutte en Haïti pour la conquête des esprits. L'expression caractérisant le culte populaire est devenue un adjectif signifiant, incohérent, bizarre, zinzin, dans l'entendement occidental dominant. Ainsi, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie 2001, parle d'une économie vaudou pour caractériser les mesures économiques de travers des gouvernements républicains de Ronald Reagan et de Donald Trump. On l'emploie donc pour désigner les pratiques qui s'attendent à des résultats positifs en faisant du n'importe quoi. Toutefois, Wole Soyinka, Africain prix Nobel de littérature 1986, revendique les puissances surnaturelles, l'envoûtement et la croyance aux esprits dont Ogun, présent dans ses œuvres dans un mouvement qui relie les vivants, les morts et les enfants à naître. En entrant de plein pied dans la religion populaire, Eddie Cavey offre des éléments susceptibles d'aider à assumer une situation complexe que nous ne maîtrisons pas. Les pères fondateurs n'ont pas échappé à cette lutte idéologique au niveau des croyances. Tout comme les guerres de religion ont marqué le Moyen Âge en Europe, les guerres de religion en Haïti ont conduit à bien des exterminations depuis Saint-Domingue pour arriver à aujourd'hui. L'Occident n'a pas cessé d'utiliser la croix et l'épée pour sa conquête mondiale. Et dans certains coins, comme la Chine au 19e siècle, il utilisera aussi le vrai opium, pas celui dont parlait Karl Marx en référence à la religion, pour asseoir son pouvoir. Un modèle étendu aujourd'hui à toute la planète. À suivre. C'était Haïti Histoire, la semaine Eddie Cavey, à propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 5 de 7, un texte de Leslie Péan, paru le 13 janvier 2025 dans Alter Press.
Haïti Histoire, la semaine Eddie Cavey, à propos de l'ouvrage Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, 6 de 7. Un texte de Leslie Péan, paru le 16 janvier 2025 dans Alter Press. Les croyances animistes rassemblées dans le vieux culte viennent de partout. La base est africaine, venant des ethnies Fon, Yoruba et Kikongo. Mais on y trouve aussi un peu de tout le vécu et de l'expérience psychique du colonisé. De ce fait, le panthéon haïtien est marqué par une diversité reflétant la psyché des personnes ayant vécu les expériences de l'esclavage, du colonialisme, de l'occupation américaine, de la dictature du valiériste. Des expériences rendues sous cette forme particulière dénommée Iwa ou encore Iowa. Eddie Cavey lève le voile sur la complexité chez nos pères fondateurs qui légitiment l'arbitraire en décidant d'accepter à la fois une chose en privé et son contraire en public. Tout ne roule pas sur des patins. L'évidence est la contribution des prêtres blancs dans l'organisation de la cérémonie du bois caïman. Contribution révolutionnaire dérangeante pour la nébuleuse nationaleuse. L'offensive mystique du nationalisme culturel. Il n'existe pas un ordre chronologique expliquant la béatification ou l'accession au titre de Iwa. On ne saurait oublier que l'animisme est d'abord mélange. Les Iwa peuvent émerger à tout moment. Des Iwa viennent des croyances indiennes et du catholicisme. D'autres honorent des négriers tels que Chacha et Adan Dozan. Les Iwa ne parlent pas que le créole. Certains parlent un français châtié. D'autres s'expriment en espagnol comme ce coupeur de canne haïtien revenant de Cuba au cours des années 1920 avec un Iwa parlant espagnol dénommé Tinum. Arthur Hawley, un des papes du vaudou, propage des thèses épineuses sur la formation occulte du peuple haïtien, mais un autre Iwa portant l'uniforme des Marines américains se manifeste pour tordre le cou à l'occultisme. Toutefois, cela ne suffit pas pour combattre ces idées, car l'ouvrage est réédité 4 fois entre 1926 et 1928. En pleine occupation américaine, la demande est forte pour comprendre et expliquer l'échec des élites. D'autant plus qu'Arthur Hawley, défenseur du vaudou, initiateur de la tendance occulte et ésotérique, a déclaré dans son ouvrage « Les daïmons du culte vaudou », publié en 1917, « Je suis ésotériste ». L'offensive mystique du nationalisme culturel au Bureau d'ethnologie en 1944 avec Lorimer Denis a créé le Iwa Ogun Dessalines. François Duvalier a déclaré tout de go avoir vu un possédé d'Ogun se transformer en Dessalines au cours d'une cérémonie. Enfin, les tontons Makout ont enfanté, à l'image de François Duvalier, le Iwa 22O. La lutte des classes continue dans l'imaginaire. Le vieux culte intègre en son sein un peu d'occultisme, d'ésotérisme, de magie noire, d'alchimie, de charlatanisme et de franc-maçonnerie. On comprend cette dernière influence car déjà dans les années 1780, Saint-Domingue était le siège de la plus grande loge maçonnique en dehors de la France. En supplément à la narration d'Eddie Cavé, soulignons que la mythologie celtique contient le taureau trois cornes, que l'on retrouve dans le vaudou haïtien sous son nom de Bozu Toikon. Ces catholiques primitifs du pays de Vaud, en Suisse, appelés vaudois, furent sévèrement persécutés au cours de l'Inquisition, du 12e au 15e siècle, accusés de se transformer en loups et d'être des sorciers, soit un siècle avant le commerce triangulaire négrier. Pour empêcher toute confusion laissant croire que le vaudou, V-A-U-D-O-U, haïtien, serait la continuation de cette filiation celtique, l'orthographie vaudou, V-O-D-O-U, offre une solution. Le surnaturel domine dans toutes ses variantes. L'inachèvement du vaudou remplit tous les vides, se glisse dans toutes les réalités et continue dans la modernité. On connaît le cas du wanga, vendu aux prostituées pour s'attirer des clients et pour ne pas attraper le sida. À l'occasion, le bokor en profite pour donner d'énergiques coups de rein et s'assurer que le zombie au bout de son pénis atteigne le fond du vagin de la femme. Cette ouverture du vaudou à toutes les situations le place à l'avant-garde de tous les combats pour trouver des solutions à tous les niveaux au malaise de la société en général. Le recours au Iwa est l'arme préférée pour combattre les loups-gaous dans les camps de sinistrés après le séisme de 2010. Eddie Cavé propose de nous faire prendre la mesure de la responsabilité du vieux culte dans le naufrage national. Il le fait en prenant ses distances pour souligner les contributions, mais aussi les ratés de la machine. Sans prendre les choses trop à cœur, car les causes et les effets sont trop complexes. Bien que dès l'origine, en larguant les amarres, Eddie Cavé indique sa grande ouverture aux croyances et pratiques du vaudou. Difficile, sinon impossible, de ne pas sucer un tel lait à la mamelle. On n'a pas le choix, surtout quand on grandit sous la férule d'une éducation parentale qui fait émerger la conscience. Et même quand ses parents se démènent pour empêcher que leurs ouailles tombent dans les hécatombes de l'ésotérisme avec un grand prêtre du vaudou tel qu'Arthur Hawley ou de l'occultisme avec un Milo Rigaud. Alors, les lois scientifiques de la physique et de l'astrophysique sont carrément ignorées et les charlatans prennent le dessus. Le surnaturel domine dans toutes ses variantes. Personne n'y échappe, certains à un degré moindre que d'autres. Sauf peut-être la civilisation chinoise où il n'existe ni ciel ni enfer, ni dieu ni diable. Dans cette civilisation, après la mort, il n'y a rien. Nombreux sont les scientifiques comme Galilée payant de leur vie leur insistance à développer le savoir. La colonisation va donner un autre impétus à la propagation de l'ignorance chez les peuples asservis. En continuant avec la politique coloniale du maintien de l'ignorance, les dirigeants haïtiens ont coupé la branche sur laquelle ils étaient assis. Ils ont rompu avec l'esclavage au cours d'une guerre de libération et voulaient assurément d'un autre devenir. Vous écoutez Haïti Histoire, la semaine Eddie Cavé. à propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion » 6/7. Un texte de Leslie Péan paru le 16 janvier 2025 dans Alter Presse. Les Papalois ne se sont pas laissés prendre au jeu mortel du colorisme. Mais les pères fondateurs n'ont pas compris que le même pouvoir qui libère corrompt aussi et se retourne inévitablement sur lui-même. Ils ont tracé la voie pour le triomphe de l'impunité dans une cohabitation complice du mal et du bien. Dans ces cas-là, on n'attend pas la mort pour arriver au rien. On produit le rien de son vivant. Ainsi, à côté de leur prouesse inégalée de 1804, les aïeux ont aussi produit ce que Louis-Joseph Janvier, un des dirigeants du Parti national, nommera en 1908 un singulier petit pays. Même les cochons, s'ils le pouvaient, le quitteraient. Ajoutons immédiatement qu'Eddie Cavé n'arrive pas aux mêmes conclusions tout en constatant la singularité du pays. Il n'en reste pas là et part de cette singularité pour jeter des balises permettant d'arriver à l'universel, tout en faisant la part des choses. Le triomphe du vaudou en politique a eu lieu avec le régime de Faustin Soulouk, le dernier des pères fondateurs qui ont participé à la guerre de l'indépendance. Pourtant, la chute de Soulouk a eu lieu grâce aux Papalois de l'Artibonite, plus particulièrement du temple Souvenance, qui ont donné leur appui au mulâtre Fabre Geffrard pour mettre fin au massacre perpétré par les Englen de Soulouk, véritables ancêtres des tontons Makout. Les Papalois ne se sont pas laissés prendre au jeu mortel du colorisme. Malheureusement, Geffrard n'a pas tenu son mot. Au lieu de légaliser les Papalois, il a préféré signer le concordat légalisant le catholicisme en 1860. La guerre de religion va encore durer plus d'un siècle malgré l'assouplissement de la position du Vatican sur les religions animistes suite à sa visite au Bénin en 1993. Affaire encore à suivre en ce temps de zombification comme phénomène relevant à la fois de l'imaginaire et du réel, soit de zombification astrale et de zombification cadavre, où les zombies sont à vendre. Et depuis, la culture vaudou se pervertit progressivement avec l'invasion des charlatans. En effet, le pouvoir duvaliériste corrompt le vaudou à travers ses tontons Makout qui s'en servent pour continuer ses pratiques d'extorsion. Les pères fondateurs se donnent des libertés illimitées. Les autorités militaires et les autorités tout court refusent d'accepter les interdits et les lois qui régissent les sociétés. En plusieurs occasions, Dessalines répète « Je suis le seul monarque ». Il peut se permettre tout et nul n'oserait lui demander de reconnaître un crime qu'il a commis. Lors du massacre des Français en avril 1804, il a même exigé à ses lieutenants d'y participer en déclarant « Je veux que le crime soit national ». La formulation paraît claire, mais elle a un sens caché, sibyllin. Elle enracine la logique que l'autorité politique détenant le pouvoir absolu peut tout se permettre. Le rapport entre gouvernant et gouverné s'est ainsi historicisé. Il s'est fracturé parfois, mais s'est vite reconstitué par les travestissements qui empêchent de poser les questions inhérentes à une société malade dans son ensemble. En faisant des concessions qui ne manqueront pas de susciter des débats, Eddie Cavé invite à un décapage pour sortir de ce basculement exacerbé dans 1804. Ce narcissisme exacerbé qui sert de paravent, derrière lequel gesticule toute une frange incapable de rendre possible aujourd'hui ce que les pères fondateurs ont réalisé hier. Ce narcissisme ne peut plus cacher de grandes souffrances, autant psychologiques que matérielles. La classe politique ne veut pas savoir et ne veut rien entendre. Focalisant son attention sur les signataires de l'acte de l'indépendance, l'auteur invite à sortir du cadre tracé par les pères fondateurs et dont les pratiques se reproduisent. En commençant avec l'empereur Dessalines éliminé physiquement en octobre 1806, Il fait des bonds en avant qui s'arrêtent aussi bien au président Salnave, fusillé en 1869, au président Villebrun-Guillaume Sam, déchiqueté en 1915, et plus près de nous, au président Jovenel Moïse, assassiné dans sa résidence en 2021. Toutefois, Eddie Cavé ne s'arrête pas à cette perspective historique pour appeler à percer la philosophie politique inspirant ses pratiques délétères. Il fait aussi des bonds en arrière dans lesquels il expose le révisionnisme historique dominant dans l'histoire haïtienne. Reconstruction du passé faite à partir de recherches éparses, souvent peu accessibles. Les enseignements sont là et crèvent les yeux dans certains événements qui se sont passés 2 ans avant 1804. 2 cas me semblent particulièrement importants. Le premier est la trahison de Charles et Sanite Belair par Dessalines. Le couple des Belair appuyait les revendications des cultivateurs pour l'accès à la terre et protestait contre le caporalisme agraire instauré dans la Constitution de 1801 de Toussaint Louverture, d'une part, et protestait contre l'arrestation de ce dernier et son exil en France, d'autre part. Le second cas est la trahison de Toussaint Louverture par Dessalines. Les preuves sont multiples. On trouve la première dans la lettre du 22 mai 1802, dans laquelle Dessalines affirme à Leclerc que Toussaint joue double jeu. Il écrit que Toussaint a eu une rencontre avec le chef africain Silla et ne lui a pas fait remettre ses armes, conformément aux termes de l'amnistie signée entre Toussaint et Leclerc. La deuxième preuve vient de Leclerc lui-même, qui déclare qu'il a procédé à l'arrestation de Toussaint suite à la dénonciation de ce dernier par Dessalines. Troisième preuve, elle est présentée par Isaac Louverture, fils de Toussaint Louverture, dans ses Mémoires publiées en 1825. Des éléments publiés et connus bien avant que Thomas Madiou et Beaubrun Ardouin aient écrit leur livre d'histoire. Mais la classe politique ne veut pas savoir et ne veut rien entendre. Pourquoi? D'abord parce qu'elle compte imiter les mauvaises pratiques de Dessalines sans adopter son ultime sagesse d'accepter l'unité pour arriver à l'indépendance. Ensuite, parce qu'elle ne veut pas se remettre elle-même en question et refuse la vérité. Enfin, parce que, dans ses versions noiristes et mulâtristes, elle tient à s'agenouiller devant le totem qu'elle a érigé et qui lui bloque le soleil. C'est dans ce contexte général qu'il faut placer la rencontre du 7 juillet 1802 de Pétion et Dessalines sur l'habitation Gobert à Plaisance, qui a été d'abord suivie des offensives militaires de Clairvaux et Pétion contre le Haut-du-Cap le 12 octobre 1802, puis de celle de Dessalines le 17 octobre 1802. À cela s'ajoute la correspondance entre Geffrard et Christophe en janvier 1803, appelant à l'unité des insurgés et qui culminera avec la convocation du camp Gérard les 5 et 6 juillet 1803. Cette mise en perspective est nécessaire pour se défaire autant du mulâtrisme que du noirisme dans leur forme tant sauvage que subtile. Ce livre d'Eddie Cavé invite à cette réflexion sur l'éthique dans les luttes politiques. Les efforts déployés par l'auteur pour se démarquer des discours identitaires noiristes et mulâtristes le conduisent à ne pas encenser aveuglément le marronnage, notamment celui que la classe politique a mis à l'honneur il y a plus de 60 ans sous l'influence de la pensée macoute. La recherche d'une image de marque et d'une représentation idéale de soi tend à recommander le contraire et à privilégier une représentation du marronnage construite à des fins psychologiques d'estime de soi. L'instrumentalisation du marronnage et sa réappropriation par le fascisme duvalierien ont légitimé les comportements individuels de Bakoulou et de Ticoulout, ainsi que ceux de l'État qui n'enregistrent pas les citoyens à la naissance, ne collectent pas d'impôts, ne paie pas ses employés pendant des mois, ne garantit pas la sécurité des vies ni celle des biens. La politique des scélérats. L'ignorance privilégiée dans tous les domaines et son corollaire, l'étroitesse de la pensée partisane, réduisent non seulement les possibilités de changement, mais aussi et surtout la capacité d'élaborer une nouvelle philosophie politique. À lire ou écouter la manière dont la question Dessalines est abordée par la classe politique, on observe que les pratiques politiques scélérates se retrouvent en général tant dans les courants du noirisme que dans ceux du mulâtrisme. D'où l'observance rigoureuse de cet ordre cannibale de Dessalines à Jovenel, du Pont Rouge à Pèlerin V. Un ordre ancré dans le crime, la décadence et l'absence d'humanisme. Les intrigues politiques qui expliquent la trahison de Toussaint par Dessalines en 1802 sont de la même famille que celles qui expliquent sa propre élimination le 17 octobre 1806, le pouvoir absolu. On ne peut pas déplorer l'une et faire le silence sur l'autre. La moindre justice exige de condamner à la fois la traîtrise et l'assassinat. À moins que, par ignorance, les courants politiques qui adoptent ces deux attitudes le fassent pour se débarrasser de toutes les personnalités qui leur font de l'ombre. Le grand dilemme du peuple haïtien vient justement du fait qu'on ne lui a pas appris à faire la part des choses. On lui apprend, à coups de marteau sur la tête, à admirer certaines personnalités malgré leurs pratiques répulsives et à en détester d'autres au comportement irréprochable. À cet égard, Eddy Cavé rappelle fort à propos que le fidèle chef d'état-major de Dessalines, le général Laurent Bazelet, a été banni de la mémoire à cause de l'action politique et de l'orientation idéologique de ses deux petits-fils, Boyer Bazelet et Jean-Pierre Bazelet. Fondateur et théoricien du Parti libéral, le premier est, on s'en souvient, tombé en octobre 1883 à Miragoâne, durant l'insurrection armée contre Salomon, tandis que le second a été fait prisonnier à la fin du siège de la ville et exécuté en janvier 1884. 20 ans plus tard, durant les célébrations du premier centenaire de l'indépendance, le défunt général Laurent Bazelet fera les frais de la vive opposition entre les libéraux d'Anténor Firmin et les nationaux de Nord-Alexis, son nom étant banni de la mémoire collective. Cette forme de marronnage qui refuse de séparer le meilleur du pire est à la source de beaucoup de nos malheurs. À suivre. C'était Haïti Histoire, la semaine Eddy Cavé, à propos de l'ouvrage « Extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion » 6 de 7. Un texte de Leslie Péan, paru le 16 janvier 2025 dans Alter Presse.